quand on a ces trois-là, généralement, on peut faire des gros champions du numérique. Alors après, comme tu le dis, des millions, c'est beau, etc. Moi, souvent, je vois les félicitations, enfin, je l'envoie tous les jours, hein, des levées de fonds, bravo, on a levé 20 millions, bravo, on a levé 1 million, etc. En réalité, j'ai envie de leur dire bravo, mais bon courage, plutôt.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 79e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Très souvent, quand des gens m'invitent sur des podcasts, des entrevues ou encore des conférences, on me demande assez souvent comment je me perçois en tant que professionnel. À cette question, je réponds toujours la même chose, un business geek. Maintenant, lors de l'entretien d'aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec quelqu'un qui a des dizaines d'années d'avance sur moi dans cette profession. Adrien Chaltiel, cofondateur et président de l'entreprise technologique Eldorado, est avec nous aujourd'hui pour parler de financement. Adepte du monde des startups, Adrien est un investisseur dans plus d'une dizaine d'entreprises à succès et continue d'opérer Eldorado au jour le jour en ayant pour mission d'aider les entrepreneurs à trouver des capitaux externes. Dans ses temps libres, Adrien aime également écrire et il vient nous présenter aujourd'hui son tout nouveau livre « Obtenir les meilleurs financements pour votre projet ». Sans plus attendre, ma discussion avec Adrien Chaltiel. Adrien Chaltiel, vous êtes le fondateur de l'entreprise Eldorado, une place de marché qui met en relation des entrepreneurs en start-up avec des investisseurs externes. En plus d'Eldorado, vous êtes investisseur dans près d'une dizaine de start-up technologiques et vous êtes également l'auteur du tout nouveau livre « Obtenez les meilleurs financements pour votre projet ». Adrien Chaltiel, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation.
Adrien, on reçoit énormément d'entrepreneurs sur le podcast qui nous parlent du processus long et des fois périlleux que peut être une levée de fonds. J'ose croire que c'est pour cette raison que tu as lancé Eldorado. Maintenant, avant de nous parler de la naissance de cette entreprise, peux-tu partager avec l'audience aujourd'hui comment ton parcours en affaires a commencé? Parce que tu as beaucoup d'expérience que tu as été capable d'avoir dans les 10 dernières années.
Bah écoute, avec grand plaisir. Comme beaucoup d'entrepreneurs, l'endroit où je suis aujourd'hui est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai pu faire ces 10, 15, 20 dernières années, voire même, le goût de l'entrepreneuriat remonte parfois même à l'enfance chez certains. Écoute, moi je suis avocat de formation, donc je suis parisien, j'ai été à la fac de droit à Paris pour devenir avocat. J'avais vraiment cette volonté dès l'entrée à la fac de droit. Pendant mon parcours à la fac, commencé par faire de l'associatif étudiant. Festif au début, hein, j'étais président du BDE, hein, si tu veux, de la fac pour faire les soirées, les voyages au ski, etc. Et tout cet environnement très à la fois ludique, mais où on gère de l'argent, des personnes, des bénévoles. On organise des choses quand même assez grandes, des soirées avec 2000 personnes, etc. Et ça m'a donné le goût de gestion de projet et de création de projet et travailler, collaborer avec des personnes. Ce que j'ai pas retrouvé dans mes expériences en stage de cabinet d'avocat ou en entreprise, donc mon goût et mon parcours entrepreneurial, il est né de ça. Et ce qui fait qu'après, j'ai commencé à créer des projets un peu plus sérieux que les soirées étudiantes, on va dire. J'ai créé dans ma fac, puis dans toutes les facs de France, un journal étudiant juridique, puis en économie. Et au fur et à mesure, en mix d'idées, j'ai abouti à la fin de mon Master 2 à créer un job board spécialisé pour les professions juridiques et pour même les professions économiques, sciences sociales, sciences économiques. Donc un job board, un site d'emploi spécialisé qui a très bien marché et très bien démarré. Et au moment où j'ai voulu choisir entre le métier d'avocat et l'entrepreneuriat, eh bien j'étais tiré par ce succès vers la création d'entreprise. Donc j'ai jamais pratiqué le métier d'avocat. J'ai été jusqu'au bout du diplôme, hein, comme ça je peux l'afficher dans mon bureau ou faire plaisir à mes parents, mais j'ai jamais pratiqué le métier d'avocat. Et puis j'ai abouti à la création d'entreprise très tôt, dès la sortie de la fac, où j'ai été à l'incubateur de la Blue Factory, c'est l'ESCP à Paris, qui m'a propulsé ensuite vers plusieurs mix d'idées, de projets et jusqu'à l'investissement. Et aujourd'hui, le dernier projet en date étant Eldorado.
Puis c'est ça qui est fascinant avec ton parcours, Adrien, c'est ton implication dans autant de différents projets. Donc, je vais en nommer quelques-uns et puis tu nous diras peut-être par la suite lesquels tu as une plus grande implication que d'autres. Donc, on voit que tu as été investisseur dans une entreprise qui s'appelle Swanson en janvier 2018. T'es également investisseur dans une entreprise qui s'appelle Datananas, iFlyers Agency, Careers in Law, Find Yours LLM. Bref, il y a une dizaine d'entreprises sur ton CV. Puis avant de parler d'Eldorado, j'aimerais que tu nous dises quelle est ton implication dans ces différentes organisations-là. Est-ce que tu es davantage un conseiller? Est-ce que tu titres peut-être davantage comme au niveau du board? Est-ce que tu es dans les opérations de certaines organisations-là? Quel est ton rôle dans toutes ces entreprises?
Ben écoute, c'est évidemment, je travaille pas tous les jours pour chacune d'entre elles ou
c'est ce que je me dis.
Au quotidien. Disons que bon, déjà, j'aime beaucoup, je suis passionné de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement, de l'investissement. Donc à partir du moment, et comme tout, même dans tes podcasts, on le retrouve souvent, qu'il y a de la passion, le temps de travail devient de moins en moins du temps de travail, mais de l'occupation et c'est un peu ce qui se passe pour moi. Donc ce qui fait que au fur et à mesure des projets, j'ai tout de suite voulu aider et accompagner. Donc ça se voit généralement dans les entrepreneurs qui créent des places de marché, c'est des gens qui veulent mettre en relation, faciliter les liens, etc. Donc dans l'essence même de leur identité d'entrepreneur, ils voient qu'ils aiment aider. Et ça, je l'ai fait dès le début. En fait, en étant à l'incubateur de l'ESCP, comme je disais tout à l'heure, j'ai ensuite été dans divers pépinières, incubateurs d'entreprises, mais l'incubateur de l'ESCP a cette bonne idée d'impliquer les anciens pour aider les prochains incubés et les prochains entrepreneurs. Et du coup, j'ai commencé à donner des conseils à d'autres entrepreneurs. Les premiers entrepreneurs que j'ai mentorés, j'ai eu de la chance, c'était Bertrand et Jérémy, très talentueux, qui ont créé Welcome to the Jungle en France, qui est un des sites d'emploi et un média leader dans l'emploi en France aujourd'hui. Et j'ai aussi pu participer, même au tout début, quand j'avais ma casquette un peu d'avocat entrepreneur, je donnais des cours de droit pour les entrepreneurs ou des cours de stratégie juridique, parce que c'était une vraie naissance des startups en France entre 2010 et 2012, ce qui fait qu'il y avait très peu de contenu ni de personnes spécialisées, donc il y avait la place. Donc j'ai toujours voulu un peu aider, accompagner. Et donc je le fais de trois manières, pour résumer, parce que t'as mentionné des noms de personnes qui sont un peu dans des formats différents. Soit je suis mentor dans une structure qui met en relation avec ces personnes-là. C'est le cas de l'incubateur d'HEC, de l'ESCP, d'une initiative qui s'appelle Ticket for Change, qui favorise l'entrepreneuriat des personnes qui veulent faire de la réorientation professionnelle dans une démarche à impact social, environnemental, etc. Les Déterminés aussi, qui est un réseau d'incubateurs, une structure d'accompagnement pour les personnes issues de quartiers défavorisés en France ou de la diversité. Et donc, voilà, donner ce temps, c'est un peu d'une logique américaine pay it forward que tu dois bien connaître, qui est de dire, je donne de mon temps et un jour, par la force des choses, pour ma boîte aujourd'hui Eldorado, pour mon réseau personnel, ça me bénéficiera directement ou indirectement. Donc, il y a ces structures d'accompagnement. Les deuxièmes formats, c'est les formats d'investisseurs, où là, j'ai mis un ticket d'investissement dans les entreprises, comme tu l'as mentionné pour Datananas ou Swanson, où j'investis généralement en seed, comme beaucoup de business angels en France, mais avec une démarche vraiment très entrepreneuriale, puisque je suis moi-même entrepreneur à côté. Et donc là, généralement, je participe au démarrage du projet, ou on va dire aux 18 premiers mois. J'essaye d'être au board de l'entreprise comme si j'étais co-fondateur, mais aller voir sur un rythme qui convient à tout le monde, une fois par mois, un call par semaine, etc., sur les enjeux stratégiques, à ouvrir tout ce que je peux de réseau, de contacts, etc., au même moment. et je me positionne plus comme un sparring partner de ces entrepreneurs. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est à travers Eldorado. Le but d'Eldorado aujourd'hui est d'aider tous les entrepreneurs à trouver tous les types de financement. Et donc tout le temps que j'accorde en plus à toutes les structures autour d'Eldorado, c'est pour aider ces entrepreneurs aussi, d'où les lignes sur LinkedIn qui veulent à la fois dire beaucoup, mais à la fois pas grand-chose, parce que c'est beaucoup d'aide un petit peu à droite à gauche, quoi.
Ben c'est intéressant parce que à même ton organisation Eldorado, ça devient littéralement, puis pardonne-moi l'anglicisme, un deal flow pour toi. C'est-à-dire que toi-même, t'es investisseur, tu mets en contact des entrepreneurs avec des investisseurs, donc tu peux faire partie un petit peu de ce lot-là qui veulent participer au jeu dans certaines organisations, donc c'est intéressant. Je suis curieux, j'aurais une petite question à te poser par rapport à ton parcours d'investisseur, Adrien. Tu as dit que tu es investisseur au niveau des seed rounds, donc au départ des organisations. Est-ce que ton investissement, tu l'échanges en termes d'argent ou en termes de temps? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils sont au départ d'une organisation, vont aller chercher une partie de l'action de l'organisation, un 10-12% en tant que, ou même des fois un 5% en tant qu'advisor. Donc, ils vont donner leur temps avec tout leur réseau de contacts et leurs connaissances pour aller prendre une part de l'organisation. Ou bien entendu, des fois, on peut retourner à un investissement davantage traditionnel où est-ce qu'on va mettre des sommes monétaires pour prendre une part dans l'organisation. Comment tu te situes dans tout ça?
Moi, j'ai une position assez ferme sur cette question et j'espère qu'elle fera naître des débats peut-être avec des gens qui ont d'autres positions. Pour moi, au démarrage et puis même dans la croissance d'une entreprise, mais surtout au démarrage, la seule valeur qu'a une entreprise, c'est ses actions, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, de valeur technologique, de propriété intellectuelle, de brevets ou autre. Et c'est le temps de travail des fondateurs. Et ce temps de travail, ils se partagent pas avec d'autres puisque c'est les fondateurs et les fondatrices qui démarrent le projet. Et donc j'ai toujours été un petit peu dubitatif sur les modèles de whatever it is contre equity si c'est pas de l'argent. Au début, une entreprise, elle a besoin d'essence et un investisseur, il doit se positionner en disant moi je mets de l'essence dans la voiture. Je m'assois sur le siège passager, je t'aide à te dire le trajet, je peux mettre un peu de musique dans la voiture, je te donne 2-3 indications du GPS, mais ça s'arrête là. Il y a même des pour filer la métaphore, il y a même des investisseurs qui disent, moi je mets de l'essence, mais je m'installe dans le coffre et tu me dis quand on est arrivé.
Exact.
Donc, monnayer le temps que tu vas passer à conseiller, à ouvrir ton réseau, etc., compte de l'equity, je trouve ça un peu unfair par rapport au temps et à la valeur du temps des 2 premières années d'une entreprise que celui qui est déterminant que les entrepreneurs vont passer dessus. Et je suis aussi même dubitatif des modèles d'accélérateurs qui d'ailleurs on voit ça a évolué entre 2015 et 2020 et 2020 et aujourd'hui les accélérateurs qui font de on va dire de l'accélération contre equity ou du media for equity ou du tech for equity etc. On voit que c'est des modèles qui sont pas si viables que ça. Déjà parce que les investisseurs des tours de table suivants vont dire, mais attends, pourquoi lui, il a 5%, il a mis combien? Moi, je dois mettre de l'argent alors que lui n'en a pas mis, etc. Donc, ça fait un peu un mélange des genres. Donc, ma position, c'est dire aux entrepreneurs, l'argent est nécessaire pour mettre du fuel et votre valeur, c'est la valeur du temps que vous mettez. Donc, si vous faites venir des investisseurs, ils mettent de l'argent déjà et potentiellement, ils deviennent associés. Donc, ils vous aident à développer votre entreprise, ce qui est leur rôle.
OK. Très intéressant parce que c'est vrai à un certain point. Hein, si au départ de l'organisation, quelqu'un est venu prendre une part de l'équité en échange d'un temps, d'un réseau de contacts, d'une liste courriel, peu importe c'est quoi la valeur, puis qu'éventuellement par la suite, on prend une avenue de VC, d'investisseur externe, ou est-ce que là, on lève des grosses sommes, ça peut créer certains enjeux à un certain point. Donc, effectivement, c'est une bonne réponse ici. Je ramène un petit peu le tout avec Eldorado, donc ton expérience en tant qu'investisseur, en tant qu'avocat, tu as appris beaucoup de choses, j'imagine, dans les dernières années. Et c'est important également de le mentionner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Eldorado, et corrige-moi si je me trompe dans les chiffres, Adrien, dans la dernière année, ça serait 2600 entrepreneurs qui auraient été mis en contact avec des investisseurs. Est-ce que c'est un chiffre exact, ce que je viens de dire?
Exactement. C'est l'année dernière, 2020, qui était une année spécifique. On a quand même accompagné plus de 2600 entrepreneurs, pas que dans les relations investisseurs, mais aussi dans les relations avec, en France, la chance qu'on a, c'est qu'on a une banque publique très active et des soutiens publics à l'innovation et à la création d'entreprises. Donc, on met aussi en relation avec toutes ces régions, etc. Et les banques. Donc, comme on est une place de marché avec un guichet unique, on a les investisseurs, mais aussi les banques et le financement public. Mais c'est exactement ça, et on est très fiers de ce chiffre qu'on espère faire augmenter toutes les prochaines années.
C'est assez exceptionnel. Donc, 2600 entrepreneurs qui ont utilisé votre plateforme. J'imagine, Adrien, que tu dois connaître mieux que personne quelles sont les problématiques, les enjeux que tu es capable de voir, de retrouver avec les gens qui s'en vont chercher de l'argent. Peux-tu nous faire part un petit peu de ces problématiques que tu retrouves chez ces entrepreneurs? Qu'est-ce qui leur manque pour aller faire, pour aller faire leur première ronde de financement? Qu'est-ce qu'ils devraient avoir davantage dans leur sac d'apprentissage avant d'aller voir des investisseurs externes?
C'est une très, très bonne question puisque c'est vraiment l'essence même d'Eldorado et de résoudre ce problème d'accès au financement. Et donc, nous, on a vraiment bien étudié la question et comme tu le dis, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui nous expliquent pourquoi ils veulent lever, pas lever, etc. Donc, on voit tout ça. On va dire qu'il y a deux gros ensembles. Le premier problème, il vient des entrepreneurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent ça va être difficile, c'est pas pour moi, ou alors je connais pas Excel, j'ai jamais fait de formation en finance, je sais pas ce que c'est que la BPI ou le financement public, equity, non equity. Donc il y a beaucoup de peurs internes des entrepreneurs qui sont légitimes parce que quand on démarre une entreprise, on le voit aussi encore une fois dans tes podcasts, qu'il y a énormément de sujets qu'il faut balayer, le marketing, le recrutement, le financement, le juridique, etc. Et quand on est CEO, on est au début, c'est chief of everything, quoi. C'est-à-dire qu'on doit tout faire. C'est chief everything officer. Et les deux premières années, on va dire, pour grossir le trait, c'est le moment où il faut un peu tout faire. Et la finance, comme le juridique, d'ailleurs, ça se rapproche un peu. C'est souvent un peu le parent pauvre où on dit, oulala, c'est pas pour moi, je sais pas, je vais essayer de le déléguer. Et c'est une erreur. C'est très accessible de comprendre. Et puis, un entrepreneur doit aussi un peu se former, faire lire un bilan comptable, connaître un compte de résultat, les grands ensembles. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que l'écosystème est mature. Donc, il y a des avocats, des experts comptables, start-up qui peuvent vraiment bien expliquer aux entrepreneurs les choses et leur donner des bons contenus aussi, qu'il y en a de plus en plus. Et c'est la même chose sur le financement. Donc, un peu, il y a des biais cognitifs ou des biais des entrepreneurs qui se bloquent eux-mêmes. Et je te parle même pas ici des entrepreneurs qui sont issus soit de minorités, des personnes en région, des personnes issues de quartiers ou de où là ils se disent oulala non mais moi j'ai pas fait de grande école, je suis pas à Station F à Paris, je vais avoir du mal. Et donc et encore plus aussi quand c'est pas une minorité mais pour les femmes entrepreneurs où ils se disent oulala il y a tellement peu de femmes entrepreneurs, c'est pas un métier pour lever des fonds, etc. Donc les biais, c'est le premier blocage. Nous on essaie de le débloquer, on a plein de manières, de contenus, de démocratisation de cet accès au financement. Et puis le deuxième, c'est le fait que c'est un peu le revers de la médaille où en France et puis même dans le monde aujourd'hui, on est à une apogée de financement disponible. Il y a tellement de financement disponible en France, tu vois, c'est plus de 20 milliards d'euros d'investissement ou de financement en France pour l'innovation. Et il y a plus de 2000 sources de financement, même si tu parles des investisseurs ou des sources, des subventions, des prêts, etc., des banques. Et donc, c'est génial, mais c'est assez, parfois même un peu antinomique de dire on a plein de sources, mais elles sont difficiles d'accès. Et c'est parce qu'il y en a beaucoup qu'elles sont difficilement intelligibles. Et donc là, nous, on essaye d'aider les entrepreneurs à déjà comprendre les organismes de financement. Pourquoi un business angel va investir? Pourquoi la BPI va me prêter de l'argent? Pourquoi une banque va financer ma production? Et quand on comprend déjà ça, on comprend le but du mécanisme, on sait mieux comment l'adresser, comment anticiper et comment obtenir les financements. Mais c'est des sujets assez vastes, ça prend aussi des années. Je fais une dernière tout petite laïus, c'est que le fait que l'entrepreneuriat a aussi est monté en flèche, hein, la démocratisation de l'entrepreneuriat, c'est même en France, c'est un écosystème très jeune. Et bah forcément, il est un peu formé sur certains aspects et le financement en faisait partie. D'où j'espère le fait qu'on puisse aider un maximum d'entrepreneurs avec Eldorado.
Ben c'est une, je trouve que la mission de votre organisation est excessivement intéressante parce que à la fin de la journée, beaucoup d'entreprises pourraient accélérer considérablement leur croissance en utilisant du financement externe, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe des fois que de faire une campagne de marketing, que d'aller développer un client. Donc, ça fait partie de la boîte à outils qu'un entrepreneur doit comprendre, mais des fois qui est un petit peu laissé de côté. Par contre, on a parlé de financement. J'aimerais amener ton attention ici, Adrien, sur des situations, des dynamiques que j'ai été capable de voir dans différents entretiens avec les invités qui sont venus sur le podcast Hypercroissance. Un peu de contexte pour toi. Beaucoup de gens qui, bon, le nom du podcast c'est Hypercroissance, qui vont passer en hypercroissance vont utiliser du financement externe sensiblement agressif. Donc, je pense à un épisode qu'on a eu récemment avec Rodolphe Barrère de l'entreprise Spotlock, qui a été nommé dans les 30 under 30 de Forbes. Une entreprise exceptionnelle, croissance dans les voiles, ils viennent de lever 20 millions de dollars pour accélérer leur croissance. Les choses vont bien. D'un autre côté, j'avais quelques épisodes avant, Pascal Maillard, fondateur de Coca, une entreprise en forte croissance également, qui est située en Suisse, 100 millions de chiffre d'affaires, a jamais touché à du financement externe, ça ne l'intéresse pas. Question que je te pose maintenant, en voyant des cas comme ça, là, comme je viens de t'expliquer, quelles entreprises, selon toi, se doivent d'utiliser du financement et quelles entreprises sont peut-être mieux de s'autofinancer?
Alors, c'est un grand débat, mais qui à la fois n'est pas forcément un débat. C'est-à-dire qu'on peut pas opposer l'autofinancement et les levées de fonds. C'est deux formats et deux logiques qui sont complètement différentes et on peut pas dire j'ai de la chance, j'ai été autofinancé ou j'ai de la chance, j'ai levé des fonds par rapport à l'autofinancement parce que c'est un peu... parfois, on dit comparaison n'est pas raison, mais là, c'est un peu le cas. Pourquoi? Parce que, donc, c'est des très bons exemples et j'en vois beaucoup. Il y a plusieurs écoles dans ce débat. L'école même du plus grand investisseur français, Xavier Niel, est le pape de la représentation de dire « autofinancez-vous », alors qu'il investit dans énormément d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'il dit « mon succès de Free, pourquoi je suis devenu milliardaire ?» C'est parce que je suis propriétaire de mon entreprise et que j'ai pas eu d'investisseur externe. Et il dit, si vous pouvez vous passer d'investisseur externe, passez-vous d'investisseur externe. Mais la phrase, elle commence quand même par si vous pouvez. Donc en fait, c'est une question de rythme, d'accélération et d'opportunité. Nous, on le dit aussi au tout début d'Eldorado, à chaque présentation, à chaque entrepreneur, même s'ils viennent pour trouver des financements, on dit alors attention, vous allez trouver sur Eldorado les financements, mais le meilleur financement, c'est celui de vos clients. Tout le reste, ce sont des moyens pour arriver à votre fin, et votre fin, c'est financer votre entreprise par vos clients. Donc, il faut le garder en tête, et le piège de la levée de fonds ou de la course au financement, c'est que l'entrepreneur voit qu'il est plus talentueux ou qu'il est plus facile de lever des fonds qu'aller chercher un chèque de client, et parfois peut oublier son produit, son service, ralentir, et passer du temps et de l'énergie sur les levées de fonds. Donc, en fait, il faut se dire, quand on est entrepreneur, c'est où est-ce que je pourrais emmener mon entreprise en autofinancement, jusqu'où? Et si j'ai de l'investissement, comment ça peut me permettre d'accélérer ou de m'entourer, puisque quand on lève des fonds, c'est on s'entoure d'associés. Donc j'ouvre mon capital. Donc là, c'est plus du tout, je suis plus du tout seul maître à bord aussi. Il y a aussi cette question-là. Hein. Faire rentrer des investisseurs, c'est un peu changer légèrement, hein, mais changer la gouvernance de l'entreprise, puisqu'on participe à des décisions collectives, il y a un board, etc. Et donc, il faut bien pondérer en fonction des besoins et de la nécessité de développement et de la croissance qu'on souhaite pour son entreprise. Est-ce que je veux lever des fonds ou est-ce que je veux une croissance tranquille, raisonnable, mais je suis maître à bord et je peux potentiellement aller très loin seul aussi.
Intéressant, parce que à un certain point, et c'est ce que j'ai été capable de voir un petit peu, puis je serais curieux d'entendre ton avis là-dessus, Adrien, c'est que des fois qu'on va lever des fonds, ben on tombe, et je sais pas si le terme que je vais utiliser est bon, mais on peut tomber un petit peu dans de la facilité. Donc, on se rend compte que les investisseurs acceptent un burn rate qui est élevé, donc on est OK de perdre 10, 15, 20, 30, 50 000 euros ou dollars par mois ici, parce qu'on a une vision de croissance, qu'à un certain point, à un moment donné, on va atteindre le break-even point et que bon, on va aller chercher les parts de marché avant tout le monde. Mais là, on continue et on tombe dans un engrenage des fois qui fait en sorte que, ah ben là, tu sais quoi, je sais pas exactement si... ultimement, cette entreprise-là a une capacité d'avoir une fondation économique viable. Et là, les gens continuent à lever des fonds et continuent à lever des fonds. Et finalement, tu te rends compte, là, en analysant le tout, qu'il y a des chances que l'entreprise ne soit jamais profitable. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Est-ce que tu aurais une réponse à ça?
Oui, c'est encore une fois une super question, puisque c'est l'extérieur. Moi, je le vois très bien parce que j'ai pas une famille d'entrepreneurs ou des amis. Et donc, quand ils voient mon écosystème, parfois, ils se moquent en disant « Alors, on a levé combien de millions cette année ?» etc. Mais c'est vrai que d'extérieur, nous, on vit dans cet écosystème, donc on voit les levées de fonds, on voit la stratégie. D'extérieur, on comprend pas trop. C'est-à-dire, attendant une entreprise... un cabinet d'avocats qui un entrepreneur avocat qui crée son cabinet une entrepreneur qui lance sa marque ou un franchisé qui ouvre son restaurant en Bretagne etc. ils peuvent pas lever des millions. Et en fait, ce qu'il faut faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas forcément l'écosystème ou qui le connaissent mais qui voient pas l'intérêt de lever des fonds, c'est que il y a à la fois une dynamique d'accélération très technologique ou d'être premier sur le marché, donc il y a une dynamique concurrentielle. Donc lever des fonds, c'est aussi envoyer un signal d'accélération et mettre cet argent bien au travail peut permettre à l'entreprise d'atteindre une rentabilité bien plus élevée à moyen terme que si elle l'avait fait toute seule. Donc il y a une dynamique aussi de création d'emplois et on commence à le voir puisque dans l'écosystème français, on a maintenant atteint la 13e licorne. Il y a un objectif de 25 licornes d'ici 2025, etc. Donc il y a un enjeu de croissance, de création d'emplois. Et puis il y a un enjeu un peu stratégique et politique puisque l'innovation des ingénieurs français, c'est aujourd'hui dans l'écosystème de l'innovation et des startups qu'il est bien représenté, il y a des structures, il y a une maturité des structures d'accompagnement. Donc si on amène les capitaux, on va réussir à reproduire potentiellement ce qu'on peut voir dans en Israël, dans la Silicon Valley, etc. C'est-à-dire un espèce de triptyque qui est, pour réussir un écosystème mature, on le voit dans pas mal de livres ou même de la Silicon Valley, c'est des universitaires et un écosystème, on va dire, de formation à l'entrepreneuriat qui est mature, des entrepreneurs de talent avec une dynamique internationale et des capitaux. Et quand on a ces trois-là, généralement, on peut faire des gros champions du numérique. Alors après, comme tu le dis, des millions, c'est beau, etc. Moi, souvent, je vois les félicitations, enfin, je les envoie tous les jours, hein, des levées de fonds, bravo, on a levé 20 millions, bravo, on a levé 1 million, etc. En réalité, j'ai envie de leur dire bravo, mais bon courage, plutôt, parce que c'est le début de l'histoire, et c'est le début des problèmes, hein, quelque part, parce que mettre cet argent au travail, bah, souvent, j'imagine l'entrepreneur qui, ça m'est arrivé, hein, qui lève des fonds, qui fait la soirée, et le lendemain qui se réveille en disant bon, c'était super soirée, mais qu'est-ce que je fais maintenant de tout cet argent? Bon, je force le trait. Et aussi parce qu'on s'en rend pas compte, c'est que même 10 millions d'euros, et ça peut peut-être faire sursauter les personnes qui nous écoutent, ça se dépense très très vite. Ça part très vite. Donc en recrutement, en locaux, etc. Machin. Donc on peut en publicité, en marketing, on peut vite se déchanter. Et puis dernière chose aussi que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas un format qui est plus à succès que d'autres. Et ça, c'est pour ça que parfois on voit que l'écosystème de l'innovation et du venture capital, c'est un écosystème de risque. Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont levé 10, 15, 20 millions, qui en fait, au bout de course, se sont plantées, ou voire même des licornes qui vivent des moments difficiles. On a pu le voir avec la crise du Covid, etc. Donc, en ayant dit tout ça, ça donne un petit peu plus de clés d'analyse, j'espère.
Ah, clairement. Je pense que c'est intéressant d'en discuter parce que t'as mentionné deux choses qui ont capté de mon attention dans ta dernière réponse. Un, ben la première chose, la félicitation d'une ronde de financement, comme tu le dis. OK, c'est bien, là, tu as l'argent, mais attention, c'est pas ton argent. Donc, tu dois être certain que tu sois capable de ramener cet argent-là à tes investisseurs. Donc, c'est là que le travail commence. Une autre chose que tu as mentionné, tu as parlé de la Silicon Valley, puis j'aimerais faire une petite parenthèse ici. J'écoutais un entretien récemment avec un investisseur de la Silicon Valley qui se nomme Kamal Ravikant. C'est un célèbre investisseur dans la vallée. Il a fait plusieurs investissements et plusieurs sorties où est-ce qu'il a été capable de faire de multiplier par 10, 15 son investissement. Puis il disait dans un entretien, puis j'ai trouvé ça fascinant, les investisseurs dans la vallée en technologie ne recherchent pas des entreprises qui vont générer des profits, donc ils ne recherchent pas un P&L, ils recherchent uniquement des entreprises qui ont une capacité de sortie à des multiples élevés. OK? Et quand j'ai entendu ça, clairement, ça m'a sonné une cloche et je serais curieux à savoir qu'est-ce que tu penses de cette réponse-là. Est-ce que tu partages cette vision-là? Puis est-ce que tu considères qu'une entreprise qui cherche du financement, on va dire sensiblement agressif, donc refaire des séries A, B à chaque année, à chaque 18 mois pour aller encore plus vite, est-ce que tu crois que ces entreprises-là doivent uniquement se focusser sur la prise de marché au détriment des profits?
Alors oui, dans le sens où les investisseurs qui vont investir, c'est leur business model. Et donc ça, les entrepreneurs qui lèvent ou pas, ou les personnes qui regardent un peu d'extérieur l'écosystème se disent « Mais attends, c'est fou, une entreprise c'est fait pour vendre aux clients, être rentable et puis dégager des profits. » Mais pas forcément l'écosystème de l'innovation et les startups ou le numérique au sens large, puisque les investisseurs qui investissent, donc les venture capitalistes ou les fonds VC, fonds d'investissement, etc., ont un business model qui est assez simple à comprendre. Ils investissent, ils dégagent une plus-value en revendant l'entreprise qu'ils partagent avec leurs investisseurs. Donc en fait, les fonds d'investissement, leur but unique, il n'y en a pas d'autre, c'est ça qui est assez simple, mais parfois même les entrepreneurs ne le savent pas, le seul but, c'est de revendre l'entreprise.
Donc, ils veulent juste une sortie.
Ils veulent juste une sortie. Que la boîte soit profitable ou pas, ça les intéresse potentiellement, hein, parce que ça reste un des KPI importants à suivre, un des indicateurs de performance, c'est la rentabilité potentielle, mais c'est aussi la data, le chiffre d'affaires, le volume d'affaires, le nombre d'utilisateurs, les réseaux de distribution, l'avantage technologique, etc., qui sont parfois très coûteux. Et on peut prendre un exemple dans la tech de la biotechnologie, par exemple, qui est un secteur qui est assez méconnu parce que très pour les initiés, très niche, où là... on a parfois 6 ans de tests cliniques sur une molécule qui coûte 80 millions d'euros, où il n'y a même pas de mise sur le marché, mais où la molécule se vendra. Et donc, il n'y a pas une histoire de profitabilité. Je force le trait complètement pour montrer, parce que c'est pas forcément le modèle, par exemple, des startups SaaS par abonnement ou sur des logiciels, où là aussi, il y a une possibilité d'aller vers de la profitabilité. Mais on se dit, tiens, si on met plus d'argent dans le moteur, on peut vendre beaucoup plus, en dépensant beaucoup plus, pour atteindre un jour la possibilité soit d'être entré en bourse, soit d'être revendu à un autre fonds, soit d'être revendu à un corporate qui va intégrer la solution à son entreprise pour la développer. Et donc, je dirais que je partage cette vision auprès des investisseurs de la tech, avec peut-être un petit laïus aujourd'hui que j'ai senti dans le marché depuis un an et demi, depuis la naissance, depuis le premier confinement et depuis la naissance de cette crise qui était début d'année dernière, c'est que les investisseurs maintenant cherchent ça, mais plus que ça. Donc on voit même que des venture capitalistes voient qu'ils cherchent aussi, on va dire, pas des business nice to have. Moi, je prends souvent l'exemple du four à pizza connecté. Bon, ok, four à pizza connecté, c'est super, etc. Mais c'est quoi le vrai but de l'entreprise, la vraie vision, le vrai intérêt? Donc c'est plutôt pas de nice to have, mais un must have. Et dans les must have, il y a souvent une dynamique impact environnemental. Il faut en avoir une aujourd'hui. Un impact sociétal, social, en plus du business, qui fait qu'on ne cherche pas que l'hypercroissance et la capacité à gérer des sorties, mais aussi qu'il y a un vrai sens dans l'investissement. Et ça peut amener aussi à se dire, on va faire un petit peu moins d'argent, lever un petit peu moins, le mettre mieux à disposition pour générer plus de croissance saine que de faire de l'hypercroissance comme on en faisait dans les années 2010 entre 2010 et 2020.
Très intéressant tout ça. Donc, essentiellement, ce que je comprends, c'est que c'est ça. Peut-être, enlevons la petite parenthèse de la dernière année, mais les fonds d'investissement, en reprenant un terme, sont là, ils sont présents pour faire un flip, littéralement. Donc, on vient prendre l'organisation, on y injecte le plus de capital possible pour aller chercher le maximum de marché. On cherche un gros joueur qui veut l'acquérir pour un multiple qui est excessivement élevé. Et c'est ça notre business model. Et ça nous dérange pas que ça fonctionne une fois sur 6 ou une fois sur 7, parce que quand ça fonctionne, on vient de faire 15-30 fois notre investissement qui vient de rembourser tous les autres qui n'ont pas marché. C'est un peu ça qui se déroule là, de leur côté. Là.
Exactement, c'est exactement ça. C'est généralement un fonds sur 15 participations à 2 champions, une dizaine d'entreprises un peu moyennes et 5 échecs, quoi, on va dire, pour grossir le trait. Et ce qu'ils cherchent, c'est de faire x100, x200, avoir un Uber, avoir un Facebook, avoir etc. dans le portefeuille, le futur, qui va faire gagner de l'argent à tout le monde, aux entrepreneurs déjà, aux investisseurs et puis aux investisseurs du fonds d'investissement et puis aux salariés, aux personnes qui vont croître, etc. Donc c'est comme ça qu'on génère des entreprises beaucoup plus rapidement qu'en 30-50 ans et des profits et de la rentabilité potentiellement plus tard, quoi.
Question que je te pose, tu mentionnais dans un entretien récemment à Smart PME avec l'animateur Jean-Marc Silvresse que vous donnez 4 conseils aux entrepreneurs en start-up pour réussir leur levée de fonds. Peux-tu nous dire, Adrien, un petit peu quels sont ces 4 conseils?
Avec plaisir. C'est des conseils génériques, mais qui sont très importants. Donc, en plus de ceux qu'on a déjà donnés, qui est de dire, faites attention, lever des fonds, c'est le début de l'histoire. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre le développement, etc. Maintenant, quand on part sur une levée de fonds et qu'on décide à faire venir des investisseurs dans l'entreprise, on donne généralement 4 conseils. Le premier, c'est un conseil un peu générique qu'on donne aux entrepreneurs, c'est l'art de l'anticipation ou l'anticipation. Un entrepreneur doit savoir anticiper pour mieux gérer son entreprise, même anticiper des recrutements, anticiper la sortie d'un produit, d'un service, et anticiper ses besoins de financement. Donc l'anticipation permet 2 choses. Déjà, de comprendre quel type de financement on va aller chercher à quel endroit, et pour favoriser et préparer au mieux leur obtention. Et puis, l'anticipation, c'est aussi de se dire, tiens, je vais pas commencer ma levée de fonds quand j'ai plus que 2 mois de cash dans ma trésorerie, quoi. parce que là, il est trop tard, ça envoie un mauvais signal, ça met la pression,
etc. Tu perds ton rapport de force.
Et tu perds ton rapport de force, effectivement, par rapport aux investisseurs, parce que tu le mentionnes très bien, mais une levée de fonds, c'est aussi une négociation. Les investisseurs veulent prendre le plus de capital pour le moins d'argent, et les entrepreneurs veulent laisser le moins de capital pour le plus d'argent. Donc, il faut négocier, trouver un terrain d'entente. Et quand on anticipe et qu'on prépare ça bien, eh ben, on peut trouver les bons investisseurs, prendre le temps et puis ne pas se mettre sous cette pression. Donc l'anticipation, elle est clé et j'invite vraiment à tout le monde à vraiment bien préparer un plan de stratégie d'entreprise avec à côté le stratégie de financement. C'est hyper important. Ensuite, le fait de voir quels sont les types d'investisseurs, le deuxième conseil qu'on donne, c'est vérifier l'alignement d'intérêts qu'on a avec les investisseurs. C'est très important, puisqu'on l'a dit tout à l'heure aussi, les investisseurs vont devenir associés. Donc, on choisit des investisseurs comme on choisirait un cofondateur, même si l'implication n'est pas forcément la même.
Bien sûr.
Ils rentrent au capital, ils sont actionnaires, ils sont vraiment associés. Alors, ils sont associés non exécutifs ou dormants parfois, mais il reste que ce n'est pas qu'un chèque. Ce n'est pas une banque qui envoie de l'argent dans le compte courant. Ça reste des gens qui vont être dans les décisions stratégiques, accompagner les entrepreneurs, essayer de les épauler quand ça va pas, leur faire des intros quand c'est nécessaire, etc. Surtout, hein, c'est un peu comme dans un mariage. Il y a beaucoup de rapprochements et de métaphores entre le mariage et l'entrepreneuriat. Parce que c'est un peu comme quand on va se marier, on signe un contrat de mariage, mais on imagine, bah, tiens, si on divorce, si on truc, donc quel contrat on va faire? Et puis, on vérifie les intérêts avant de partir en lune de miel. Généralement, c'est ce qu'on fait. Et c'est pareil pour les investisseurs. Faut voir quel serait le comportement et l'appel, l'intérêt en cas de difficulté aussi. Si on n'a plus d'argent, comment ils peuvent nous aider? Si on s'est trompé, si on a une opportunité de revente, mais qui est un peu plus faible que ce qu'on avait, essayer d'imaginer cet intérêt, cet alignement d'intérêt. Parce que s'il n'existe pas ou qu'il y a un peu un red flag ou quelque chose qui met le doute, un peu nébuleux, forcément, il y aura des tensions et à ce moment-là, ça deviendra un enfer de gestion, voire ça peut même engendrer une fin de l'entreprise. Donc, la vérification de cet alignement d'intérêts est vraiment primordiale. Ensuite, on dit aussi savoir s'entourer des bons acteurs. Ça, c'est un très bon conseil qu'on donne beaucoup parce que les entrepreneurs, au début, on font avec des bouts de ficelle en disant « Tiens, il y a mon expert comptable qui va me faire mes statuts, il y a mon ami avocat qui va me faire ma levée de fonds, etc. » C'est un mauvais réflexe. Il faut vraiment prendre les bons acteurs pour les bons sujets. La chance, c'est que l'écosystème est mature, donc il y a des partenaires, des accompagnateurs, même des podcasts spécialisés, etc. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour s'entourer. Donc, quand on fait une levée de fonds, il faut un cabinet d'avocats qui connaît les levées de fonds en start-up et qui sera capable d'accompagner les entrepreneurs sur le pack d'actionnaires, sur la valorisation, etc. De même, un expert comptable fait la comptabilité, le dépôt des comptes, etc. Donc voilà, il y a savoir s'entourer des bons acteurs et pour trouver les bons, il faut faire tout simplement de la review d'anciens de ses clients. C'est la meilleure manière de faire pour choisir un prestataire quand on est entrepreneur, c'est de contacter des personnes qui sont passées par ce dernier pour savoir comment ça s'est passé, etc. Et puis dernier conseil qu'on donne qui est aussi assez important, c'est on l'a dit tout à l'heure, il faut pas se perdre dans la course au financement, mais il faut aussi le faire au bon moment. Donc pour faire une levée de fonds, faut être reposé, motivé, avoir plein d'énergie, être souriant, être déterminé, parce que une levée de fonds, c'est beaucoup de noms. C'est beaucoup de personnes qui vont vous dire non, c'est pas pour le moment, non, c'est pas pour vous, etc. Non, je n'investis pas, etc. Donc c'est un peu dur pour le moral, etc. Et c'est parfois long en termes d'échanges, de promesses d'investissement qui en fait s'annulent, etc. Donc il faut être un peu armé, préparé mentalement et même physiquement. Faut pas commencer une levée de fonds quand on est en plein moment un peu de coup de mou ou qu'on n'est pas motivé, parce que c'est vous, entrepreneur, qui représentez votre boîte. Donc c'est un conseil important qu'on dit et qu'on redit.
Tout ça se retrouve à l'intérieur de ton livre, Adrien?
Exactement. Donc on a l'aboutissement un peu de tout ça, c'est la création, la publication d'un livre pour les entrepreneurs qui s'appelle Obtenez les meilleurs financements pour votre entreprise. L'idée c'était vraiment de mettre sur papier ce qu'on fait déjà depuis des années et qu'on essaie de faire transposer à travers différents contenus, où il y a tous ces conseils de A à Z pour donner un peu plus d'intelligibilité sur les sources de financement aussi. C'est vraiment le but et la vision qu'on veut dégager avec le livre. C'est rendre plus clair quels sont les financements disponibles. Et puis, c'est un livre qui n'est pas un livre de finance, c'est plutôt un livre d'entrepreneuriat et de stratégie de financement pour entrepreneurs. Et donc, on retrouve ces conseils aussi dans le livre.
Merveilleux. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Parlant de lecture, j'aurais des petites questions personnelles pour toi, Adrien. Là, tu viens de sortir un livre. J'imagine que tu es un amateur de lecture si tu as écrit des livres. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête de financement ou business, un petit peu de levée de fonds que tu pourrais nous partager aujourd'hui?
Alors, je vais te décevoir et te dire que tu fais erreur puisque je ne suis pas un grand amateur de lecture, malheureusement.
Incroyable.
Enfin, donc, on peut écrire un livre sans être un grand lecteur. Moi, je suis un lecteur vacancier, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai mon roman au bord de la piscine. Et sinon, je lis quand même beaucoup, mais beaucoup de littérature entrepreneuriale et des contenus entrepreneuriaux, c'est vraiment... moi, ce que j'aime lire, en fait, je suis quelqu'un d'assez impatient, donc j'arrive pas à faire. Je suis pas monotasque et je passe beaucoup de choses à l'autre. Donc, se mettre une heure et demie à lire, faut vraiment que j'ai pas d'enfant, pas de mail, pas de téléphone, pas de truc, etc. Donc, je suis pas un grand lecteur. Maintenant, j'aime beaucoup les romans. Je lis des romans. Le dernier que j'ai lu, il s'appelle L'Anomalie, qui est le prix Goncourt en France, qui est un super roman que je vous conseille. Mais je suis encouragé par mes proches plutôt pour sauter le pas. J'aime beaucoup aussi Amine Malouf, etc. Mais il y a beaucoup d'ouvrages que j'aimerais lire, mais je me laisserai le temps peut-être à la retraite pour devenir un grand lecteur de romans. Et puis après, sur la littérature entrepreneuriale, je conseille généralement moi mes trois livres qui m'ont marqué en tant qu'entrepreneur. C'est assez classique, hein, mais je l'ai redit. Start with the why, qui est hyper important quand on crée une entreprise, de comprendre que le why, donc le pourquoi on crée cette entreprise, est primordial pour aller chercher d'ailleurs même les financements, hein, mais tout. Et puis, il y a le meilleur livre que je conseille, c'est The Hard Thing About Hard Things, qui est vraiment très focus sur les difficultés des créateurs d'entreprises et des CEO et des créatrices d'entreprises qu'ils peuvent connaître dans leur vie, avec des très bons retours d'expérience et des très bons conseils sur la répartition du temps personnel, professionnel quand on est entrepreneur, sur comment surmonter des difficultés professionnelles quand on est entrepreneur, puisque c'est un métier quand même où on est relativement seul. Et puis le dernier, c'est L'Art de se lancer de Guy Kawasaki, qui vulgarise énormément de choses et qui fait du bien à lire parce que c'est simple. Souvent, on a l'impression de se lancer dans des livres très compliqués, mais voilà, c'est à peu près le seul conseil de lecture. J'espère que ça aidera à ceux que ça aidera, mais je suis pas un très grand lecteur. J'ai essayé d'être un grand auteur sur ce livre, mais c'est tout ce que j'ai essayé de faire.
Beaucoup de gens me parlent du livre The Hard Things About The Hard Things. Je ne l'ai pas lu encore. Je pense que je vais mettre ça dans ma to-do list.
Ouais.
Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Oui, j'écoute beaucoup de podcasts autour de l'entrepreneuriat. Celui que je préfère, c'est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie.
Ah, ben oui. Ben
qui,
oui.
Qui en plus accélère en termes de diversité de profil. Et je trouve que c'est très enrichissant parce que c'est 2 heures. Alors, il faut avoir 2 heures. Mais généralement, j'écoute en 2 fois ou 3 fois. Et je l'écoute parfois avec même des amis entrepreneurs et on échange, donc c'est très intéressant. Et puis, il y a beaucoup de retours d'expérience qui sont un peu plus profonds sur des succès entrepreneuriaux. Et puis, même, voilà. Et puis, j'en écoute un autre d'un ami Barthélémy qui est extraterrien. Le podcast s'appelle Extraterrien, sur des sportifs de haut niveau ou des personnes assez exceptionnelles par leur parcours et qui racontent en retour d'expérience les exploits qu'ils ont faits, etc., ou leur parcours. Et je trouve ça très enrichissant aussi parce que ça permet un peu de sortir des sentiers battus.
Intéressant. Dernière question que je te pose, as-tu une routine spécifique pour gérer toutes ces organisations-là, tous ces projets-là? Est-ce que tu suis une routine cordée?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'en suis une, mais non, parce qu'elle évolue tout le temps. Donc, en fait, j'ai pas quelque chose, une routine qui va durer 2-3 ans. Déjà, parce que j'ai des enfants, donc ils grandissent et ils ont des besoins différents. Donc, le rythme est différent, que ce soit les activités, l'école, faire les devoirs, etc. Tout ça évolue. Et donc, on peut pas avoir une routine, tu vois, le miracle morning, je me lève à 5h du matin pour faire une demi-heure de yoga. C'est strictement impossible. Ça aurait pu si j'avais pas d'enfants. Ou etc. Mais donc non, j'essaie de les faire évoluer. Mon conseil, c'est un petit peu ça. C'est un peu ce que dit aussi un grand investisseur en France qui s'appelle Jean de La Roche-Brochard, qui gère le fonds de Xavier Niel d'ailleurs. Il dit les conseils en développement personnel, c'est un peu comme les régimes, les conseils régimes ou les régimes minceurs. Il y en a autant que de, et puis on peut pas tout respecter à la lettre. Donc moi, ma routine, c'est de faire simplement un bilan à la fin de la journée de ma journée précédente et ce que je dois faire la journée de demain. Et j'ai deux rythmes de to-do list. Moi, j'ai une to-do list un peu à moyen terme, long terme, des sujets de fond sur lesquels j'aimerais avancer, travailler, et une routine hebdomadaire et journalière où je me donne des objectifs quotidiens, ce qui me permet d'être content à la fin de la journée et de pouvoir fermer mon ordinateur, parce que j'aime le soir arrêter de travailler, moi, à 20h, parce que c'est un métier et on peut s'y perdre aussi, ou on peut ne jamais s'arrêter. Et il faut savoir
faut faire attention. faut faire une ligne à éventuellement, mais j'aime ce que tu viens de dire, donc du micro et du macro, et on est toujours capable de suivre les deux, donc non, j'aime beaucoup l'approche. Adrien, merci énormément d'avoir été sur le podcast. On le répète pour les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, Adrien vient de sortir un nouveau livre que vous allez pouvoir retrouver un lien dans les notes de l'épisode qui englobe un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais bien entendu, beaucoup plus dans le détail. Donc, c'est vraiment fait pour les entrepreneurs qui recherchent du financement, qui ne savent pas nécessairement par où commencer, quelles étapes suivre. Adrien détaille le tout à l'intérieur de son livre. Donc, on vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Et Adrien, avant de te laisser filer, où est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur toi?
Alors, écoute, c'est assez simple. Moi, je suis un très grand utilisateur de LinkedIn. Donc, je partage beaucoup. Je réponds à tous les messages, toutes les sollicitations, toutes les demandes d'aide. Donc, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Il n'y a aucun souci. Et puis, j'espère. Et puis, je partage beaucoup de contenu. Donc, j'espère que ça vous aidera.
Bon, ben merveilleux. Adrien, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Plus j'interview des gens dans le domaine du financement, plus je me rends compte que le domaine de l'investissement est une branche que tout entrepreneur doit comprendre avec aisance. Comprendre les notions d'équité, de dette, de cap table sont des incontournables si vous désirez à terme avoir des gens qui investissent dans votre entreprise. Je mettrai d'ailleurs un lien dans les notes de l'épisode si vous aimeriez en savoir plus sur le dernier livre de Adrien. Également, de lancer nos nouveaux médias sociaux pour hypercroissance en créant des pages totalement distinctes à G7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.